Théologie fondamentale par le père Philippe à Saint-Joseph le 8 mai 85.
Nous allons continuer d'essayer de comprendre comment peut s'opérer cette coopération de la foi et de l'intelligence humaine. Autrement dit, essayer d'avoir l'intelligence la plus profonde que nous pouvons avoir devant ce qui, de fait, s'est réalisé, j'allais dire presque spontanément, chez les pères de l'Église, et puis après avec les grands théologiens du Moyen-Âge. Et comment tout cela prend pour nous, dans notre monde d'aujourd'hui, où l'aspect critique s'est très développé, depuis Descartes et Kant, et où nous devons essayer de saisir si vraiment c'est légitime de faire une théologie à partir des diverses idéologies modernes. Ce que j'ai entendu dans ma jeunesse d'étudiant dominicain, quelqu'un de très illustre, dire toujours ceci: ce que saint Thomas a fait de son temps, nous devons le faire d'une autre. La majeure, on est d'accord. Il a baptisé la noétique aristotélicienne. Baptisons Hegel, Marx, Freud, Nietzsche. C'est-à-dire, essayons de faire que ces grands génies de notre monde d'aujourd'hui soient mis au service de la théologie. Ce que j'ai lu aussi dans une semaine religieuse, je ne dis pas d'où, il y a quelques années, une conférence donnée par quelqu'un aussi de très connu. Vous savez, je dis comme au Moyen-Âge, les quidam, c'est l'avantage du quidam, la charité fraternelle est tout à fait respectée, disant ces grands génies étaient en dehors de l'Église avant le Concile. Il faut que maintenant, ils fassent partie de l'Église. Baptême posthume. Les idées, ça ne meurt pas, donc on peut toujours les baptiser. Reconnaissons qu'il y a là quelque chose d'important pour nous. Mais je crois que c'est au cœur de tout le problème d'aujourd'hui de savoir si vraiment il y a une nouvelle théologie possible dans ce sens-là. C'est très vieux ce désir-là, parce qu'au fond, pratiquement, je ne dis pas que toutes les époques ont eu ce désir-là, mais vous savez que déjà du temps de Descartes, il y avait eu la demande. On avait demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie. Les professeurs de Descartes avaient demandé à Descartes de faire une nouvelle théologie. Et Descartes a commencé par le mystère de l'Eucharistie. Puis ça n'a pas été plus loin. Parce qu'évidemment, ça allait très à la dérive. Mais au temps de Descartes, on comprend très bien que ça ne pouvait pas aller très loin. Dans notre monde d'aujourd'hui, ça peut aller beaucoup plus loin. Une nouvelle théologie à partir de ces idéologies. Pourquoi ces idéologies ne nous permettraient-elles pas de faire une nouvelle théologie? Alors, vous voyez que pour pouvoir répondre, il faut saisir l'agencement de la sagesse philosophique, de la sagesse théologique. Il faut saisir au point de départ, à la source, ce qu'est la foi et ce que représente l'intelligence humaine dans ce qu'elle a de fondamental et en même temps dans ce qu'elle a aussi de capacité d'être au service de la foi. Alors, je soulignais la dernière fois, je crois que c'est important, que la foi saisit l'intelligence dans ce qu'elle a de tout à fait radical. Les habitus de philosophie viennent après. Et donc, on peut être croyant tout en n'étant qu'ancien. Il y a des croyants qui sont restés qu'anciens. Clavel a reçu une lumière de Dieu par où il a vraiment déclaré, affirmé sa foi, chrétienne, catholique. Et en même temps, il affirmait qu'il demeurait qu'ancien. Et que même d'une certaine manière, il voulait aller jusqu'au bout de ce que Kant avait dit. On connaît des Hégéliens qui sont croyants et qui veulent même être théologiens. Clavel n'a jamais voulu être théologien. Il a toujours respecté les deux domaines, le point de vue de sa philosophie et le domaine de sa foi. Donc c'est un problème très actuel, ça, et qui est difficile. Hein. Il ne faut pas le traiter trop vite. Il est difficile parce que la foi, étant divine, a un regard éminent à l'égard de ce que nous, nous cherchons. Puisque c'est la lumière de Dieu en nous. Et la lumière de Dieu en nous a quelque chose d'infiniment plus élevé que notre propre lumière. C'est pour ça que la foi peut assumer certains aspects divers. Mais on peut peut-être préciser quelles sont les conditions pour que la foi puisse assumer un habitus ou une disposition philosophique. Donc, précisons bien ceci. L'intelligence de nous, dans ce qu'il a de radical, c'est-à-dire la dynamisme, sa puissance. La puissance et la puissance obédientielle. Vous voyez ce que c'est que la puissance obédientielle ? C'est l'intelligence face à la lumière de Dieu. Parce que l'intelligence, dans sa puissance naturelle, est face à ce qui est. Hence, primo cadit in intellectus, hence. L'ens, il tombe dans l'intelligence, dans ce qu'elle a de radical, c'est-à-dire dans sa puissance naturelle. La lumière de foi ne tombe pas dans l'intelligence au même niveau que l'ens. Vous n'avez qu'à écouter, vous verrez bien. L'intelligence reçoit l'ens, elle reçoit ce qui est. Elle est ouverte à ce qui est, elle est déterminée par ce qui est, selon un ordre immédiat et naturel. Ceci me permet de préciser la capacité naturelle de l'intelligence. L'intelligence peut regarder tout ce qui est comme tel. Tout ce qui est comme tel. Omne. Dire en latin, omne ens, tout ens, tout ce qui est, puisque l'ens tombe en premier lieu dans l'intelligence. Donc, tout ce qui est, selon n'importe quelle de ses modalités, l'intelligence est capable de l'atteindre immédiatement ou médiatement, hein, ça on ne le dit pas, mais ça intéresse l'intelligence. L'intelligence est intéressée par tout ce qui est. C'est ça qui est si fort quand on dit primo cadit intellectus ens. Ça veut dire que l'intelligence s'intéresse à tout ce qui est, si elle n'a pas d'a priori. Une intelligence vivante ne peut pas dire « moi je me désintéresse absolument des réalités séparées, celles qui existent. Je me désintéresse complètement de l'être premier, s'il existe. » Je n'ai pas le droit de dire ça. Si je dis ça, ça prouve que je ne suis pas intelligent. Au sens très très fort, il y a quelque chose qui manque à une intelligence qui dit ça. Ordinairement, on dit ça par un a priori. On est anti-religieux. On est anti-clérical. Alors on dit ça. Mais je n'ai pas le droit. L'intelligence regarde ce qui est. Mais l'intelligence ne regarde pas naturellement. La lumène de Dieu, la lumène de foi, la lumière de foi, lumène fidei. Lumène fidei, l'intelligence ne regarde pas ça naturellement. Donc je peux très bien, et naturellement, je dirais, la lumière de foi, ça m'échappe, la révélation comme telle. Ça m'échappe, c'est au-delà de moi. Parce que ça regarde la puissance obédiencienne. Quand Dieu agit sur mon intelligence pour donner la lumière de foi, c'est Dieu qui fait ça, et Dieu seul. C'est Jésus et le Verbe qui pour me donner la lumière de foi. C'est Dieu seul qui agit dans ce qu'il y a de plus fondamental dans mon intelligence, dans ce qu'il y a de plus radical, dans la puissance obédientielle, c'est-à-dire au fond quelque chose qui est plus radical que ma puissance naturelle vers l'être. Très important de comprendre ça, que la lumière de foi s'enracine donc dans l'intelligence, dans sa puissance obédientielle, l'intelligence capable d'être surnaturalisée. Et l'intelligence est capable d'être surnaturalisée dans quelque chose de plus profond que lorsque l'être tombe dans l'intelligence. Il y a une couche plus profonde, et c'est l'intelligence incliné par la volonté, par la pia affection. Comme dit le concile d'Orange, c'est ce premier amour qui ouvre mon intelligence, sa puissance obédientielle, à être éclairé par le bien fini. Ça, je crois que nous pouvons tous le saisir. Hein. C'est tout simplement les rapports entre la nature et la surnature. Or, la grâce saisit ma nature et saisit mon intelligence dans quelque chose de plus radical et plus profond que dans son exercice naturel. C'est extraordinaire du raisonnement. Ça montre combien la foi est enracinée. Elle est enracinée dans l'intelligence, elle ne vient pas après coup. Ça explique pas mal de choses, vous voyez, même pour des handicapés. L'exercice de la foi n'est pas tout à fait le même. Alors vous voyez, quand on met la psychologie pour mesurer l'exercice de la foi, c'est très très lointain. L'exercice de l'exercice de l'intelligence, c'est encore plus loin. Voyez, ceci, ça c'est la puissance obédientielle, c'est radical. La puissance naturelle, c'est déjà très profond. Ça regarde l'ens. Puis troisièmement, il y a la raison. Il y a les raisons, et la psychologie est au niveau de la raison. La psychologie n'est pas au niveau 2. A fortiori au niveau 1. Vous voyez, quand je veux mesurer l'exercice de la foi par le point de vue de la psychologie de la raison, c'est très très lointain. Parce que l'intelligence saisie par le point de vue de l'humain fini, c'est quelque chose de très radical. Alors, ce qui est vrai, ça ne faut pas l'oublier, c'est que la foi ne me donne pas un conditionnement nouveau. Mon intelligence demeure une intelligence rationnelle. Même pour le croyant, mon intelligence demeure une intelligence rationnelle, c'est-à-dire une intelligence qui a besoin du concours d'images, Même pour la foi, j'ai besoin de petits fantasmes, de petites images. J'ai besoin de ça pour exercer ma foi. Je m'appuie sur ce que représentent ces petits fantasmes. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de paroles. Le raisonnement, l'exercice de ma foi, non seulement a besoin de fantasmes, mais il continue de raisonner, de diviser. Je divise, j'analyse. La foi ne supprime pas donc la manière naturelle de connaître. Mais la foi dans ce qu'elle a de plus radical, sa lumière fidèle, pas l'exercice. L'exercice, c'est évidemment le même. Mais dans ce qu'elle a de radical, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pour ça, vous voyez, c'est là où il faut bien comprendre. Une intelligence qui est abîmée par une idéologie. L'idéologie se situe à quel niveau? Nous descendons, là, nous faisons dans la critique, nous essayons de voir à quel niveau s'enracine une idéologie. L'idéologie, par exemple, de, je ne sais pas, Descartes, ou l'idéologie de Hegel, à quel niveau ça s'inscrit? Ça ne s'inscrit pas au niveau de la puissance obédiencienne, c'est bien. Ça ne s'inscrit pas au niveau de la puissance naturelle. Pourquoi? Parce que l'idéologie est liée à une dialectique. Et la dialectique implique un raisonnement. Donc, ce n'est pas au niveau de la puissance naturelle, au niveau de ce qui est. L'idéologie est toujours dans un devenir. Donc, ça ne s'enracine qu'au niveau de la raison. C'est sûr. C'est pour cela, vous voyez, qu'on peut avoir la foi, être plongé dans une idéologie marxiste ou hegelienne, ou être kantien, et pouvoir réciter son credo. On ne dira pas à la messe que tous les kantiens, que tous les hegeliens, se mettent à gauche et tous ceux qui sont de philosophie réaliste se mettent à droite. Non, on ne dira pas ça. Venez, on peut exercer son acte de foi même avec des idéologies hegeliennes, marxistes et réciter un acte de foi, dire un acte de foi. Pourtant, le conditionnement est abîmé. Je peux le faire, c'est sûr. Supprime pas. Et pourquoi je peux le faire? Parce que je me sers d'un langage qui m'est donné par le credo. Et que ces idéologies ne suppriment pas ce langage humain. Et je dirais tout simplement, c'est au langage du bon sens. C'est le langage du bon sens. Est-ce qu'il resterait vrai? C'est le langage du bon sens. La foi ne présuppose pas du tout une métaphysique et le credo ne présuppose pas. Donc c'est au langage du bon sens. Et donc je dirais au niveau du bon sens, je suis croyant. Pouvez-vous mettre votre idéologie au service de la foi? C'est-à-dire faire une dialogie. Ça c'est différent. Et c'est là la difficulté qu'il faut essayer maintenant de comprendre. Puis-je mettre ma dialectique marxiste au service de la foi? Puis-je mettre ma dialectique hegelienne au service de la foi? Je me souviens, quelques années, c'est pas tellement vieux, c'était le père Dubarle, Dominique Dubarle, qui enseignait à l'Institut catholique, qui était venu faire une conférence à Fribourg. C'était le sujet de l'année, c'était justement sur la philosophie hegelienne. Et alors, on avait demandé au père Dubarle de dire, est-ce que nous pouvons faire une nouvelle théologie en nous servant de la dialectique hegelienne? Père Dubarle a essayé d'exposer rapidement ce que c'était que la dialectique hegelienne, puis il leur a dit, surtout, n'essayez jamais de mettre la dialectique au service de la foi. Vous perdriez la foi. Il ne resterait plus que la dialectique. Il n'y a pas d'autres explications. Simplement ça. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. met ma dialectique marxiste au service de la foi, au bout d'un certain temps, je perds ma foi. Je continue à être marxiste. C'est très curieux. Hein? Ça ne veut pas dire que la foi est moins forte que la dialectique. Non, elle se situe dans quelque chose de bien plus vital. La puissance vitale de la puissance obédientielle est bien plus forte que le niveau du raisonnement et du conditionnement. Mais c'est que je m'habitue à raisonner de telle manière et au bout d'un certain temps, il n'y a plus de place pour la foi. Comme à Bethléem, il n'y avait plus de place à l'hôtel. C'est la même chose. Ça envahit tout. Et ça envahit tout, ce qui fait qu'il n'y a plus de place pour la foi. Et la foi n'en a plus d'espace vital. Dans sa pureté. Alors, revenons toujours à cette question-là. Maintenant, je me place dans l'hypothèse, au contraire, d'une philosophie réaliste. Et j'essaie de comprendre, y a-t-il possibilité, comme le dit saint Thomas, de comprendre comment la sagesse philosophique peut être au service de la foi. Alors, comprenons bien. L'exercice de la foi ne se sert pas immédiatement d'une philosophie. Elle se sert uniquement de la parole. Puisque Dieu s'est servi de la parole humaine pour en faire une parole divine, et que le croyant reçoit par la révélation cette parole de Dieu. Lorsque j'exerce ma foi, j'exerce mon intelligence, mais je l'exerce au niveau commun. Au niveau commun, habituel. Je récite le credo, je lis l'écriture, et quand je lis l'écriture, je la lis en croyant. Et je ne cherche pas à approfondir, si vous voulez, le sens particulier, sauf si je regarde les racines, savoir dans la langue hébraïque que signifie cette chose. Alors, très bien, j'éclaire des mots, mais je ne fais pas de théologie au sens propre, je me sers simplement de la parole de Dieu en essayant de m'en servir de la manière la plus intelligente qui soit. Donc l'exercice de la foi implique toujours l'exercice de l'intelligence, mais pas plus. Cet exercice, puisque la lumière de foi est quelque chose de très fondamental qui ne change pas le conditionnement de ma vie intellectuelle. Mais est-ce que la pensée philosophique, qui n'est pas le sens commun, est-ce que la pensée philosophique peut-elle être au service de la foi? Ou est-ce que nécessairement, si ma pensée philosophique est au service de la foi, je diminue ma foi, je l'alourdis, je l'empêche d'être divine, je la rends humaine, je l'humanise. Est-ce que toute théologie n'humanise-t-elle pas la parole de Dieu? Est-ce que toute théologie ne va-t-elle pas permettre que la parole de Dieu n'a plus la même force? Si la théologie humanise la foi, il vaut mieux pas faire de théologie. Et ça, en croyant. Et vivre pleinement de sa foi, puis c'est tout. Laissons la théologie tranquille. Si vraiment la théologie humanise, c'est-à-dire diminue, et empêche à la parole de Dieu d'avoir toute sa force. Alors, comprenons. La parole divine, quand je dis par exemple Dieu est Père, ou Dieu est amour, nous avons dit que seul le jugement de foi a une signification nouvelle, qu'il n'y a pas de nouveau concept. Dieu, c'est un nom, c'est le nom par excellence. Dieu, c'est le nom par excellence. C'est le nom qui m'est donné par les traditions religieuses. Dieu signifie le Très-Haut, signifie le Créateur, signifie l'être nécessaire, tout ce que vous pouvez ajouter à la signification du mot Dieu. Amour, je peux comprendre ce que c'est au point de vue humain. Et Je lis Dieu est amour. Cette proposition, je peux la dire en philosophe, je peux la dire en théologien. Je peux la dire en croyant, plus exactement. Je peux la dire en philosophe et en croyant. En croyant, je la dis comme étant une révélation. Il m'est révélé que Dieu est amour. Et quand il m'est révélé que Dieu est amour, le mot amour est lié non seulement à ce que représente la manière particulière d'exister de Dieu, qui est la bonté souveraine et qui est l'amour, mais c'est lié aussi à tout le mystère de la fécondité de Dieu. Et donc à toute la très sainte Trinité. Et à ce moment-là, le jugement d'existence, Dieu est amour, a une signification nouvelle. Ce n'est plus la même signification. Et c'est cela qui est toujours très difficile à préciser. Quelle est la nouvelle signification du jugement de foi? C'est que ce jugement est inséparablement lié au mystère du Christ et au mystère de la très sainte Trinité. Nous l'avons vu, ça. Par le fait même, ce jugement d'existence ne peut pas se ramener tout simplement à un jugement de sagesse philosophique. Il y a quelque chose de nouveau, parce que c'est le mystère même de la très sainte Trinité, c'est le mystère même du Verbe devenu chair qui est présent. Je ne peux pas séparer ça. Ce n'est pas toujours explicite. Quand je dis Dieu est amour, n'est pas explicité la révélation faite par Jésus, mais c'est implicite et en acte. Ça, c'est bien évident. La révélation Dieu est amour implique la révélation du Christ et implique donc la révélation de la très sainte Trinité. Alors, qu'est-ce que ça ajoute au point de vue de la signification? Quand je dis Dieu est amour, et quand je dis au point de vue philosophique, et quand je dis Dieu est amour au niveau proprement théologique. C'est toute la manière d'exister de la très sainte Trinité, la manière d'exister du Christ, qui est présente. La révélation ne me dit pas ce qu'est Dieu, mais elle me fait comprendre la manière nouvelle dont Dieu est, existe. Il existe dans un mystère de fécondité qui fait qu'il y a des relations entre le Père et le Fils, entre le Père et le Fils et l'Esprit Saint, qu'il y a des relations entre le Fils et la nature humaine dans le mystère de l'incarnation. Vous voyez qu'au niveau de la signification, et je dis bien au niveau de la signification, rien n'est ajouté de nouveau. Puisque je ne peux pas connaître ce qu'est la fécondité divine, puisque je ne peux pas savoir ce qu'est Dieu, c'est uniquement au niveau de l'existence, la manière d'exister, disons plutôt la manière d'exister. Dieu existe dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Et quand je dis Dieu est amour, ceci est impliqué en acte. Et ceci est révélé par le mystère du Christ. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a une intelligibilité nouvelle. Oui, dès que je dirais qu'une intelligibilité nouvelle, il faudrait dire qu'il y a un nouveau concept. Mais je peux dire qu'il y a une nouvelle manière d'exister de Dieu qui m'est donnée. Je crois que ça, si nous sommes un peu lucide vis-à-vis de ce que représente notre acte de foi, nous pouvons l'affirmer. Quand vous dites le credo, qu'est-ce que vous ajoutez de plus à la connaissance métaphysique que vous pouvez avoir de Dieu? Cette manière particulière d'exister de Dieu qui existe dans cette fécondité de la très sainte Trinité. Pas autre chose. Pas de nouveau concept. Alors, ce langage par où Je pénètre dans le mystère de Dieu d'une manière intime, puisque la foi me donne une connaissance intime de Dieu. C'est sa vie personnelle. Ce n'est pas Dieu comme créateur, ce n'est pas Dieu lointain, c'est le Dieu immédiat qui m'est révélé. C'est le Dieu intime. C'est le Dieu qui se communique à moi et qui me permet d'avoir la même vie que lui. Et donc cette manière d'exister de Dieu me permet de comprendre aussi ma manière d'être enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu par la grâce et je pénètre dans le mystère de Dieu par la grâce. C'est au niveau donc de la manière d'exister. Rien n'est ajouté au niveau proprement de la signification des mots. Et ceci me semble capital à souligner, parce que s'il y avait une signification nouvelle des mots, mon intelligence de sagesse métaphysique ne pourrait absolument pas expliciter la signification des affirmations de foi. Si au contraire, l'affirmation de foi n'ajoute rien au point de vue signification propre, en dehors du point de vue de l'existence et la manière d'exister, je peux donc essayer de creuser la signification de l'amour. Je peux donc essayer de creuser la signification de ce que représente la fécondité. Je peux donc essayer de creuser ce que peut représenter la signification du verbe qui assume la nature humaine dans une unité personnelle. Tout ce qui est affirmé par la foi peut donc être explicité, peut-être mis en parallèle avec ce que ma sagesse philosophique me dit. Parce que la signification demeure la même. Et c'est uniquement une manière d'exister différente. Vous allez voir, petit à petit, comme c'est important de saisir cela. Je puis le faire. Pourquoi ? Parce que la sagesse philosophique affirme l'exister de Dieu. Si la sagesse philosophique affirme l'exister de Dieu, affirme la simplicité de Dieu, affirme la bonté de Dieu, l'infinité de Dieu, ma sagesse philosophique peut affirmer tout cela. Mon jugement d'existence au niveau de la sagesse est au niveau de Dieu. C'est donc, comprenons bien, le même Dieu qui est atteint par ma sagesse philosophique et qui est affirmé par la foi. C'est le même Dieu. Ce n'est pas deux dieux différents. C'est le même Dieu, mais selon des modalités différentes. Puisque c'est le même Dieu qui est affirmé dans mon jugement d'existence, de sagesse et dans ma foi, il n'y a donc pas d'équivocité à mettre au service de mon jugement de foi ce que ma réflexion métaphysique pousser jusqu'au bout, c'est-à-dire pousser à ce niveau de la sagesse, peut me dire. Au contraire, il y a un point de contact qui est le même. Le nom Dieu peut de fait recevoir des attributions différentes. Je peux dire que Dieu est un. Dieu est trois. Quand je dis Dieu est un, son exister a cette modalité d'être absolument saint. Et je peux l'affirmer au point de vue métaphysique. Et quand je dis Dieu est trois, je ne supprime pas sa simplicité. C'est dans la simplicité qu'il y a la Trinité. C'est dans la simplicité qu'il y a la fécondité. Et donc, je vois la possibilité de pouvoir me servir de ma sagesse philosophique pour expliciter l'unité de Dieu, la simplicité de Dieu, la perfection de toutes les manières d'exister de Dieu dans son unité, du Dieu créateur. Il n'y a aucune impossibilité à cela. Et tout cela peut m'aider à entrer plus profondément dans le mystère de la Trinité. Alors, quand je dis entrer plus profondément, expliciter certaines analogies qui me permettront de mieux saisir ce qu'est le mystère de la très sainte Trinité. Non pas l'expliquer, c'est bien évident, mais expliciter qu'il n'y a pas de contradiction de dire que Dieu est un et que de Dieu est trois. Qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que justement, le mystère de l'infini de Dieu et le mystère de la simplicité absolue de Dieu peut impliquer cette fécondité. Ce n'est pas contradictoire. Et non seulement ce n'est pas contradictoire, mais je peux aller un peu plus loin et essayer d'expliciter comment, dans cette simplicité, il peut y avoir distinction des personnes. Et j'entre dans toute la métaphysique, dans toute la théologie de la très sainte Trinité par là. Et j'essaie de préciser, est-ce que je peux découvrir le fondement de cette relation entre le Père et le Fils, et ainsi de suite. Tout cela est possible parce que Dieu est un. Et que, au plan métaphysique, je peux affirmer l'unité de Dieu. Oui. Il y a un point de contact. S'il n'y avait pas un point de contact entre la sagesse théologique et l'attitude de foi, il ne pourrait pas y avoir coopération. Et je crois que c'est ça qui explique comment seule une vision de sagesse peut coopérer à la théologie, peut coopérer à la foi pour réaliser la théologie. Parce que s'il n'y a pas un point de contact entre les deux, il ne peut pas y avoir coopération. Quelles sont les exigences d'une coopération? C'est qu'il y ait un point de contact pour qu'on puisse faire une œuvre commune. Autrement, on ne fait pas une œuvre commune. Donc il faut vraiment qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui, tout en respectant la diversité, implique une certaine unité. Vous voyez que ceci met en cause tout le problème de l'analogie. Et que seule l'analogie me permet d'affirmer ce contact. Puisque l'analogie me permet de montrer que dans cette diversité du jugement d'existence, de la sagesse acquise, et de la foi, dans ce jugement d'existence, il y a une diversité absolue, et il y a cependant quelque chose de commun. Puisque c'est le même Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas deux dieux différents, c'est le Dieu simple, un, qui est trine. C'est le Dieu affirmé dans son existence absolument simple, que je découvre comme impliquant cette fécondité et cette distinction. Il y a donc dans la diversité quelque chose de commun. Et ce quelque chose de commun permet donc la coopération. S'il n'y avait pas ce quelque chose de commun, il ne pourrait pas y avoir de coopération. Mais je crois que c'est cela qu'on doit dire. Hein. Comme c'est très délicat, si vous avez des questions, pas maintenant, mais si vous avez des questions, écrivez-les. Puis on y discutera la fois prochaine. Parce que c'est très délicat et c'est très important. C'est même capital pour nous. Parce qu'autrement, on fait de la théologie parce que saint Thomas en a fait. Faire de la théologie parce que saint Thomas en a fait, c'est très bien. Au point de vue docilité religieuse, c'est parfait. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire de la théologie en croyant, comme un croyant, qui sait qu'il peut mettre au service de sa foi son intelligence. Et donc, qui non seulement sait qu'il peut mettre son intelligence au service de la foi, mais qu'il sait qu'en faisant cela, il donne à sa foi tout un rayonnement, toute une amplitude. Il permet d'une certaine manière à la foi, au mystère de la foi, d'assumer tout l'exercice de mon intelligence, et donc de sanctifier mon intelligence. Alors là, ce point de vue-là, ça devient très grand. C'est pas seulement pour les autres que je fais de la théologie, c'est aussi pour moi. C'est pour les autres, c'est évident, ça me permettra d'expliciter certaines choses que je ne pourrais pas expliciter autrement. Ça me permettra de montrer l'erreur de certains qui disent que la foi, par exemple, c'est absurde. Je montrerai que c'est pas absurde. Donc pour les autres, c'est très important, mais c'est aussi très important pour moi. Parce que ça permet à mon intelligence d'être assumée par la foi, en coopérant avec la foi, en devenant un instrument qui aide la foi. Et je crois que c'est ce point de contact qu'il faut saisir. Alors voyez tout de suite l'analogie, hein, c'est intéressant à voir ça. Dieu se sert de la parole humaine. Alors est-ce que ce n'est pas l'indice? Nous l'avions déjà vu, que Dieu veut la théologie. Parce que se servant de la parole humaine, Dieu montre qu'il y a une certaine continuité entre la foi et l'exercice de la vie de l'intelligence. L'intelligence se sert de la parole humaine pour transmettre aux autres ce que nous avons contemplé, ce que nous avons connu. Au niveau de l'intelligence humaine, je peux très bien affirmer « Dieu est amour ». Et pour moi, ça a une signification. Puisque Dieu se sert de la parole humaine, de la même parole, et quand Dieu dit, quand Dieu affirme et révèle que Dieu est amour, par ses instruments, par Saint Jean, il nous invite à montrer que, de fait, nous pouvons affirmer de deux manières différentes Dieu est amour. D'une manière selon la sagesse philosophique et en croyant. J'affirme Dieu est amour. C'est une signification pour le croyant de foi chrétienne et c'est une signification pour le philosophe. Si Dieu avait pris un langage qui n'est pas le même, je ne pourrais pas dire ça. Et puisque Dieu se sert de ce langage humain, je peux dire ça. L'affirmation « Dieu est amour » a une signification pour moi. Et toutes les paroles de l'Écriture ont une signification pour moi. Quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, ça a une signification pour moi. Et Jésus donne lui-même l'explication en montrant comment dans l'Ancien Testament tous ceux qui reçoivent la parole de Dieu sont appelés fils de Dieu, et que d'une certaine manière, je peux dire que mon intelligence, recevant de Dieu la lumière et étant enseignée par Dieu, elle peut se mettre à l'école de Dieu. Toutes les paroles ont une signification, ont une certaine intelligibilité. Toutes les paroles ont une intelligibilité. Une intelligibilité que je peux saisir en croyant et que je peux saisir en philosophe. Parce que Dieu se sait de la parole de l'homme. C'est donc bien l'indice qu'il y a un contact. Et je précise ce contact par le jugement d'existence par rapport à Dieu. Quand je dis Dieu existe, il est nécessaire qu'il existe un être premier que nous appelons Dieu. Et quand je reprends la parole de Dieu lui-même, je suis. Voilà, deux jugements d'existence qui sont tout à fait différents, parce que d'un côté c'est Dieu lui-même qui se révèle, et de l'autre côté c'est mon intelligence humaine qui progressivement affirme l'existence de Dieu. Ce sont deux jugements d'existence qui ont deux modalités différentes, mais qui ont quelque chose de commun, puisqu'ils touchent la même réalité. C'est la même réalité qui existe. Et je la saisis de deux manières différentes. Donc, voyez comment, une fois qu'il y a ce contact entre le point de vue de l'intelligence humaine, dans sa sagesse divine, dans sa sagesse philosophique, et le point de vue de la foi, il y a donc possibilité d'une coopération. Ce qu'il fallait prouver. Nous essaierons la fois prochaine de voir le comment cette coopération.